Bonjour les amis, alors bienvenue à cette prédication. Mais vous savez, il y a une chose qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas besoin de confinement. Il n'y a pas besoin de masque, je dirais même plus avec Dieu, bas les masques. Profitons donc de tout retirer, de retirer aussi les masques de nos cœurs. Et c'est le paradoxe de la protection de Dieu pendant ces temps, c'est de n'en avoir aucune. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aucune protection. Ben oui, parce que la protection ultime avec Dieu, c'est tout simplement d'être découvert devant Dieu, d'avoir ce cœur circoncis. Et pour ça, ben, on peut ouvrir les fenêtres également, les fenêtres du ciel, et de nous laisser, hein, de laisser Dieu nous prendre dans ses bras d'amour. Alors ces temps sont uniques pour opérer un réalignement sur les racines de la parole et de l'évangile. Et c'est l'objet de mon partage de ce matin. Ce temps, il est propice au réalignement de toutes sortes en raison de ce qui se passe. On ne s'attendait pas, déjà, premièrement, à ce que la mort vienne émerger au milieu de notre quotidien. On avait fini par ne plus se poser les questions essentielles qui s'imposent à tout homme quand la mort frappe. Et toutes ces questions auxquelles on préfère ne pas penser d'habitude s'imposent à nous avec la violence d'un uppercut. Et pourquoi? Ben, tout simplement, il y a des gens qu'on connaît qui sont touchés, qui sont hospitalisés, et on a peur, et on est pris par des angoisses. Et il y a aussi ce côté insupportable de la tension qu'il y a de réaliser qu'un petit geste inconscient de notre part peut avoir des répercussions dramatiques sur nous, sur nos propres vies, et sur la vie de ceux qui nous sont proches, ou des gens avec lesquels on travaille. Ce qui génère en nous le spectre de la culpabilité, si jamais la transmission à un proche était de notre faute. Et là, on est face à un dénuement auquel on ne sait pas très bien comment faire face. Alors pendant ces temps particuliers, il faut bien réaliser aussi que notre vision de Dieu est chamboulée. On ne réalise pas toujours que la Suisse a bénéficié d'une protection pendant des siècles qui est le fruit d'autres générations que notre génération. Et alors que les anciens aujourd'hui sont ceux qui partent le plus à cause de cette pandémie, je pense que c'est important pour nous de réaliser que ce ne sont pas simplement des papas et des mamans que nous perdons, mais ce sont aussi des témoins. Des gens qui parfois, par les jeunes générations, hein, on connaît, on est tous passés dans la jeunesse, qui ont parfois eu tendance à mépriser les anciennes générations. Et qui pourtant, ces anciennes générations, ont eu quelque chose de formidable, c'est qu'elles ont réussi pendant les défis de leur génération à perpétuer les bénédictions que nous avons pu expérimenter ces derniers siècles. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 7, que la mémoire du juste est en bénédiction. Et c'est une réalité. Alors le premier réalignement que je vous propose ce matin, c'est déjà de remercier les aînés et de les bénir. Bravo aux jeunes, je sais qu'ils nous entendent, bravo aux jeunes qui ont organiser ces repas entre les générations dans cette communauté, dans notre communauté. Vous avez compris quelque chose de fabuleux. Mais plus que l'honneur que vous voulez transmettre aux anciens, essayons de comprendre ensemble ce matin qu'est-ce qu'ils ont pu apporter à ce pays et à notre Église. Et nous devons comprendre que la bénédiction qui repose sur notre pays, d'abord, n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit et le résultat d'une multiplicité de choix qui ont été faites par ces générations passées, qui ont permis de poser les bases d'une bénédiction. Et aujourd'hui, c'est vrai, comme le disait une amie de la Westlake, c'est comme si le coronavirus est en train de retirer les coussins de confort de l'Europe. Et un à un, ces coussins sont en train d'être retirés, et puis on se ressent que finalement le sol est dur, qu'il est caillouteux et que ça blesse. Mais alors attention, je ne suis pas en train de dire non plus, de prendre un positionnement réactionnaire en disant « c'était mieux avant ». La Bible dit également que ceux qui disent « c'était mieux avant » sont des insensés. Ce n'est pas, c'est pas ça que je veux dire. Parce que c'est vrai qu'on a assisté ces dernières années à un déboulonnage des valeurs que nos aînés pensaient à juste titre pendant leur génération irrévocable et éternelle. Et on se rend compte que si on prend une analogie, le navire Occident s'est disloqué, se disloque dans un océan déchaîné parce que ces valeurs qu'on pensait inattaquables sont en train d'être abandonnées. Et nos anciens sont témoins de cela. Alors le navire est brutalement poussé sur des récifs qu'on appelle le postmodernisme et qui provoque un éclatement des systèmes de valeurs et le bateau se brise. Alors, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas enfin, naïf au point de croire que. Parce que c'est vrai que parfois, certains d'entre nous, on a tendance à vouloir s'accrocher au débris du navire en se disant, ouais, ça ira mieux après. Mais généralement, ça ne se passe pas comme ça. Hein. On ne va pas pouvoir reconstruire le bateau en pleine tempête. Ça n'arrivera pas. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la place de l'Église au milieu de cette tempête? Est-ce qu'on est un îlot protecteur pour les rescapés du navire, ou bien est-ce qu'on va essayer de construire un radeau de fortune pour survivre à cette tempête? Non, en fait, la question qui se pose à nous, c'est de considérer comment ces anciens ont vécu, comment ils ont incarné les valeurs et leur foi dans ce Dieu d'amour, dans les défis de leur génération, et de nous en inspirer pour que nous aussi, dans les défis de nos générations et dans les défis des générations des jeunes qui arrivent, qui puissent également pu incarner ce Dieu d'amour et les valeurs que Dieu nous donne pour pouvoir les vivre en face de leurs défis, les défis de leur génération. Alors, c'est important de comprendre quelques clés hein, qui ont fait de nos anciens des bénédictions pour notre pays. Et pour cela, on va regarder quels sont les types de vie et de choix de vie qui vont attirer le royaume de Dieu, quand je dis le royaume de Dieu, le règne du roi, hein, Jésus, sur nos communautés aujourd'hui. Mais là encore, c'est important de réaliser qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein, et pour cela, je vous propose un autre alignement, c'est de réaliser que la bénédiction dont nous avons été les bénéficiaires par les choix des générations passées, n'est pas un but en soi, mais c'est le fruit, hein, c'est des fruits, des fruits, des fruits. Donc la bénédiction, le développement, la prospérité, quand on en parle dans la Bible, ça n'est jamais présenté comme un but à atteindre, mais c'est toujours... Toujours le fruit de comportements, de choix, d'individus comme de communautés qui ont une relation avec Dieu et qui ont décidé de rester alignés sur les conseils de ce bon roi. Et ça, tout naturellement, comme une plante qui est bien nourrie, va apporter ses fruits en sa saison, eh bien, nos vies, comme nos communautés, vont apporter des fruits. Alors, c'est vrai que, alors qu'on voit maintenant nos anciens qui sont menacés par cette pandémie, on doit réaliser la force de l'héritage transmis. Nos anciens ont vécu une vie et fait des choix qui ont permis la protection de Dieu sur ce pays. Mais ce que nous expérimentions en Suisse était le fruit de générations passées. Et si jamais, comme moi, vous avez voyagé dans le monde et que vous avez certainement vu que la bénédiction d'une nation n'est pas proportionnelle au nombre de chrétiens qui y vivent. Notre théologie nous a poussés parfois à croire qu'il suffisait qu'une nation ait beaucoup de chrétiens pour qu'elle soit, comme le dit la Bible en parlant d'Israël, qu'elle soit la tête et non la queue. Mais c'est bien plus que cela. La bénédiction d'une nation, c'est vivre au quotidien le règne du roi, dans la transparence, vivre dans la réalité de la prière que Dieu nous a laissée quand il nous a dit, quand vous priez, dites, Père, notre Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et c'est bien, voilà, c'est bien plus que simplement de croire qu'on va aller au paradis, mais c'est de croire, non pas simplement en Jésus, mais c'est de croire Jésus au quotidien, croire ses conseils, croire ses orientations. La bénédiction d'une nation n'est pas magique, mais elle est le fruit de cette multiplicité de choix de personnes et de communautés qui choisissent Dieu et son conseil, plutôt que notre réussite, que la réussite ou le bonheur. C'est en quelque sorte un petit peu contre-intuitif. C'est comme, alors je suis jamais passé par cette expérience-là, vous m'en excuserez, mais il paraît que c'est ce qui se passe quand les femmes accouchent. Alors vous comprenez pourquoi, mais c'est qu'il semblerait que justement on dit qu'il y a besoin de sages-femmes pour les femmes qui accouchent parce que de façon intuitive, elles ont tendance à faire exactement le contraire de ce qu'il faut faire, de protéger cet être aimé et chéri plutôt que de le présenter voilà, au danger du monde. Alors, voilà, ce n'est pas un témoignage personnel, hein. Les femmes sont bien mieux placées que moi pour pouvoir en parler, mais c'est ce dont j'ai entendu parler, je me suis permis de le dire. Mais si on prend une autre analogie, les agriculteurs aussi connaissent très bien cela, hein, la patience des gestes répétés au quotidien, hein, ces semences qu'on accepte de perdre, qu'on accepte ben, de ne pas vendre, de ne pas manger, de ne pas, mais qu'on laisse mourir dans la terre, dans l'espérance que... Si on respecte un certain nombre de principes, eh bien, elles porteront du fruit. Et vous tous qui faites du jardinage, et je pense qu'il y en a un peu plus, Eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il est plus facile de faire? Est-ce que c'est plus facile de semer ou de récolter? Est-ce que c'est plus facile de sarcler que de récolter? Hein? La Bible nous dit dans le psaume 126, verset 5, que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Alors que les choix qui sont faits, enfin, que ces choix faits avec le conseil de Dieu, basés sur les principes de la parole, autorisent la bénédiction de Dieu. Ça, c'est une chose importante. Il y a beaucoup de nations aujourd'hui qui ont une foi extrêmement vivante, mais qui n'ont pas cet héritage, c'est vrai, qu'on a en Suisse, de ces générations passées qui ont été attachées à la parole et qui ont affecté la culture d'aujourd'hui. L'évangile, pour certaines de ces nations, a à peine plus de 100 ans. Et généralement, quand ces nations sont confrontées à des situations problèmes, beaucoup puisent des solutions dans les schémas de pensée dans lesquels ils ont été éduqués et qui, hélas, ne sont pas toujours conformes aux enseignements de la Bible. Alors nous, ici, face aux situations problèmes auxquelles nous faisons face, nous avons aussi, tout naturellement, tendance à nous appuyer sur la sagesse populaire environnante, mais qui, elle, ici particulièrement, a eu le bénéfice et le privilège d'avoir l'influence de nos anciens qui étaient pénétrés du conseil de Dieu. Parce que la parole de Dieu était le baromètre et l'inspirateur de leurs décisions. Alors, comment, et c'est ça la grande question pour nous aujourd'hui, c'est comment recréer les conditions de la bénédiction dans notre pays? Et la question ne s'adresse pas simplement aux jeunes, mais à nous tous. Et pour cela, il nous faut revenir aux racines. Le travail n'est donc pas de s'accrocher au débris pardon, du passé, hein, comme ce navire dont je parlais tout à l'heure, qui s'est brisé sur des récifs, mais il nous faut de la sagesse. Que faut-il pour développer une sagesse selon Dieu? Alors la première chose, c'est simplement d'avoir une relation avec Dieu. Une relation, comme je le disais, découverte, on retire les masques, une relation avec un cœur circoncis où on accepte la lumière de Dieu sur nos vies. Le regard que Dieu porte sur nos vies n'est pas un regard de jugement, hein. On le sait quand on voit Jésus réagir au jeune homme riche, hein. Dans le passage qui nous est raconté dans le livre Luc, on nous dit que Jésus regarde ce jeune homme riche, et puis la Bible nous dit dans Luc, Jésus, l'ayant aimé, lui dit, va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Donc c'est pas Jésus ne portait pas un regard de jugement, mais il portait un regard de compassion en disant, ah, il y a quelque chose qui te manque, il y a quelque chose qui te sépare de la bénédiction de pouvoir suivre ton Créateur. Et c'est mammon, c'est l'argent. Mais toujours cette transparence d'avoir, et c'est un courage, cette transparence de vouloir vivre avec un cœur découvert devant Dieu, un cœur circoncis. La deuxième chose qui est importante, c'est de connaître la parole de Dieu. On a besoin de connaître la parole de Dieu, on a besoin de la lire, on a besoin de la méditer, on a besoin que cette parole structure notre façon de penser, structure notre façon de réfléchir, afin qu'on puisse voir le monde et interagir avec le monde et les défis de ce monde d'aujourd'hui dans le sens du royaume de Dieu, de plus du règne du roi Jésus. Vous savez, Dieu ne sera jamais, hein, on entend souvent Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle. J'ai l'impression que parfois quand on dit Dieu est au contrôle, on met tout un tas de choses derrière cette expression Dieu est au contrôle. Mais il faut quand même savoir une chose, les amis, c'est que Dieu ne sera jamais au service de nos appétits charnels, de contrôle, de pouvoir et de confort. Ces choses, Dieu nous les donne, non comme des buts en soi, mais toujours comme des fruits. Dieu, et par sa grâce en Jésus et par l'Esprit Saint, est au service de notre croissance, de faire grandir Christ en nous. Et c'est dans ce sens que Dieu est au contrôle. Et vous savez, Dieu, il a quelque chose que nous, on n'a pas. Il voit quelque chose que nous, on ne voit pas. Dieu, il voit ce monde qui périt. Hein, tout à l'heure, ma femme, Claudia, me disait qu'elle avait une lettre d'une amie qui est confinée, qui dit, je passe un temps pour prier pour les femmes battues, pour les situations de couple qui ne vont plus. Et Dieu voit, il voit ces femmes qui se cachent pour éviter les coups de leur mari. Elle voit ces enfants qui se cachent également, qui ont peur, des enfants qui aspirent à la paix. Les amis, Dieu désire que nous soyons son corps. Il veut véritablement que nous soyons son corps. Et il est au service de cette croissance-là, de la croissance de ce corps, pour que nous puissions être ses bras, nous puissions être ses yeux, nous puissions être sa bouche, nous puissions refléter les sentiments de son cœur. Il désire que nous soyons acteurs et pas simplement spectateurs d'un monde à l'agonie. Ne confondez pas les fruits et les racines. Alors il nous faut maintenant replacer les choses dans l'ordre, hein, et de réellement nous aligner personnellement. Et c'est la prière dans laquelle je vous invite maintenant. Seigneur, on veut, c'est vrai, te remercier, comme je le disais tout à l'heure, pour toutes les générations passées qui ont permis à notre pays d'échapper à toutes sortes de problèmes qui se sont passés dans les décennies passées, voire dans les siècles passés, et qui a autorisé une bénédiction et une protection. Et Seigneur, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est simplement un merci pour ces générations qui ont su saisir ton conseil, parfois dans la souffrance, pour savoir les appliquer dans les défis de leur génération. Mais Seigneur, aujourd'hui, te prions afin que nous de même et les générations à venir puissions faire de même, que nous puissions saisir ton conseil en connaissant ta parole et en vivant alignés dans cette transparence avec toi pour pouvoir véritablement devenir ton corps et apporter tes réponses aux défis de nos générations présentes. Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite afin que chacun d'entre nous qui avons des contacts, même confinés, on a toujours des contacts, aide-nous à être un soutien dans la prière, dans le contact, dans le conseil, pour tous ceux qui souffrent et ne bénéficient pas de la communion pendant ce confinement, de cette communion en les portes ouvertes, les fenêtres grandes ouvertes avec ce Dieu d'amour. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, amen.